De temps en temps, la nuit, Cook Murphy laisse Salvigno sortir de la cachette qu'il lui a aménagée sous son lit. Il l'assoit, le nourrit, échange le pansement sur son oreille droite en lui présentant pour la centième fois ses excuses. Salvigno mastique furieusement morue et galette à la mélasse sans comprendre les mots anglais. C'est en ouvrant un baril à coups de hache, quelques heures à peine après avoir perdu de vue le Corcovado, que Cook l'a trouvé. Un cri. Il l'a caché en vitesse dans sa cabine, après avoir nettoyé les taches de mélasse et de sang qui maculaient la cuisine. La lune brille à travers le hublot de Cook, occupé à montrer à Salvigno la planche intitulée « Nom des taches de la lune », son index pointant tour à tour la page du grand livre et la pleine lune qui les inonde de sa lumière. C'est la mère de la tranquillité. Salvigno répète les mots gauchement. Cook Murphy se dit qu'il aurait dû voler au capitaine des livres qui lui auraient permis de montrer à Salvigno les terres nordiques où le bateau les amène, plutôt que des cartes des mers lunaires et des nuits célestes. Quand il ne parle pas, Salvigno affiche une expression placide, que Cook prend pour de l'angoisse, mais qui n'est en réalité rien d'autre que de l'étonnement. Ce blanc le soigne, lui donne le boire et le manger. La bière le fait rire et calme la nausée. Salvigno cherche d'autres correspondances entre la face de la lune et le dessin. Il pointe une tache sur la planche. C'est la mer des pluies. Cook s'exprime en mimant de ses doigts la pluie qui tombe. Mais là où je t'amène, on a la mer des neiges. Il s'esclave seul en tapant sur l'épaule de son passager clandestin. Chaque fois qu'il touche à Salvigno, Cook se désole de sa maigreur. Tiens, mange ce biscuit. Paru dans les journaux de Rio de Janeiro, esclave en fuite, répond au nom de Salvigno, récompense promise. Mais les voiliers de la compagnie Robin sont déjà loin. Après avoir déchargé 300 barils de morue gaspésienne bas de gamme, pitance salée donnée aux esclaves des plantations, ils sont repartis avec 299 barils de mélasse et un autre contenant Salvigno, un garçon d'Angola acheté 2 ans auparavant pour être affecté au nettoyage des quais dans le port de Rio. Tant que la morue gaspésienne s'échangera contre des rivières de mélasse brésilienne, Cook Murphy aura du travail sur les voiliers de la compagnie Robin. Pour se moquer de lui, un marin lui a récemment expliqué qu'il allait probablement devoir travailler même après sa mort pour rembourser ses dettes à son employeur qui lui vend aliments, vêtements, outils et ustensiles qu'il n'a pas le droit de se procurer ailleurs et qui sont déduits de son salaire. Préparer les sea biscuits pose moins de problèmes à Cook Murphy que l'arithmétique. Il ne sait pas encore comment il fera pour faire descendre Salvigno à terre discrètement. Il sait que le capitaine, un homme qui sait compter, s'il le découvrait, serait capable de le vendre à des planteurs américains. C'est pour cela que Cook le cache. Il arrive au cuisinier de nettoyer la peau de son passager à l'aide d'un linge. « Tu es encore collé de mélasse. » Salvigno trouve que l'étoffe chatouille. Il s'endort habituellement après cette toilette nocturne. Les vents contraires ont forcé le navire à mouiller longtemps au Cap Breton, où Salvigno s'est enrhumé. Il grelotte dans l'air glacé d'octobre. La nuit, Cook Murphy s'étend sur le flanc du garçon fiévreux pour réchauffer la couchette. Sur la planche du livre, Salvigno arrête son doigt. Le cuisinier philosophe. La mer de la sérénité a la forme d'un cœur. Elle se traverse très vite. Tu ne la reverras plus. Ils arrivent dans la baie des Chaleurs pendant les premiers jours de novembre. Il tombe une neige épaisse qui permet à Cook Murphy de décharger le baril contenant Salvigno sans être vu. Un feu de foyer éclaire le visage de Mother Murphy, qui attend dans la maison de bois à quelques pieds du rivage. Elle ne bronche pas en voyant Salvigno sortir du baril que son fils vient d'ouvrir. La mère pose des yeux une question. Son nom? Salvigno. Je l'ai trouvé dans la mélasse. On va t'appeler Freeman. La vieille caresse la joue du fugitif. C'est sous ce nom qu'elle le déclarera aux agents de recensement qui passeront dans son hameau en 1861. Le garçon, toujours pieds nus, se plante devant la fenêtre. La neige qui tombe se reflète dans ses yeux noirs du Brésil que les flocons amusent. La vieille sourit. Ça, c'est l'hiver. Ton nouveau maître.